When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Bienvenue dans Au cœur du crime, une série proposée par l'Obs. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au centre d'une histoire judiciaire. Et ils nous racontent comment leur existence a soudain basculé. L'affaire Grégory, premier épisode, Doane Bui reçoit l'ancienne journaliste Laurence Lacour.
Laurence Lacour, bonjour.
Bonjour.
Le 16 octobre 1984, vers 18h, le journal La Liberté de l'Est à Épinal est alerté de la disparition de Grégory Villemain. Son corps est retrouvé ce soir-là, pieds et poings liés dans la Vologne. Laurence, vous débarquez dès le surlendemain sur les lieux. Les rédactions flairent la bonne histoire. Il y a en effet tous les ingrédients romanesques pour enflammer l'intérêt du public, non ?
Ah, il est certain que c'est une affaire qui, d'emblée, n'est pas apparue comme un fait divers classique, si tant est qu'il y ait des faits divers classiques. Mais très vite, on a compris qu'il s'inscrivait dans la continuité d'une histoire qui était déjà entamée depuis plusieurs années. Et qui était caractérisé par les appels et les écrits anonymes d'une personne malfaisante qui visiblement cherchait à détruire certaines personnes de cette grande famille Villemain que nous avons découverte. Et donc
ce fameux corbeau,
et qui d'ailleurs a revendiqué son crime dès le soir même, de nouveau par téléphone et de nouveau par écrit. Très vite, les familles nous ont parlé assez volontiers, ce qui était un peu surprenant, mais je pense qu'on était trop nombreux pour qu'ils nous résistent. Donc c'était pas du tout un huis clos, au contraire, c'était à ciel ouvert, et les journalistes se sont beaucoup introduits justement dans ces lieux ouverts. Pourquoi est-ce qu'on nous a parlé ? Ben, je pense que dans un premier temps, les gens n'avaient pas idée qu'ils pouvaient nous dire non, parce qu'on était une certaine puissance quand même, on arrivait avec une certaine arrogance, on arrivait avec nos voitures siglées de médias très connus. Les personnes qui ont parlé le plus volontiers au début ont été les grands-parents de Grégory, qui étaient d'ailleurs les premières victimes, premières cibles de ce fameux corbeau. Et donc, ils se sont aussi aperçus dans un premier temps qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui avaient été dites sur eux. Ils ont eu un réflexe assez naturel de vouloir corriger et de vouloir redresser certaines erreurs. Mais évidemment, ça a alimenté un effet boule de neige parce que chaque journaliste après ou chaque média voulait sa part d'interview ou sa part de confidence. Et donc, les choses n'ont pas cessé d'enfler, alimentées par ces gens-là, par des frères et sœurs de Jean-Marie Villemain aussi, qui avaient des choses à dire. Alors, à un moment donné, on s'est quand même demandé si on ne manipulait pas un petit peu, d'ailleurs. Hein. On avait une certaine condescendance pour ces gens-là. Mais je pense qu'avec le recul, c'était aussi une façon pour certains d'entre eux de savoir ce que faisaient les gendarmes, puisqu'on était relativement bien informés, et de leur transmettre. Donc, c'était un intérêt partagé, on va dire, dans un premier temps.
Vous les utilisiez et vous étiez utilisés aussi.
Voilà, mais on ne l'a pas compris tout de suite, bien évidemment. Mais après coup, oui, on s'est rendu compte qu'on délivrait pas mal d'informations à des gens qui, éventuellement, pouvaient s'en prémunir. Ou en tout cas, les transmettre à d'autres qui auraient pu s'en prémunir.
Et vous, vous aviez 27 ans. C'était quoi un peu cette ambiance, justement, avec tous ces journalistes, cette enquête qui se déroule à ciel ouvert
Alors moi, j'avais 27 ans et je n'avais jamais vu de cadavre. Voilà, je le dis parce que c'est vrai que quand même au départ, hein, la première photo qui nous interpelle, c'est la photo d'un enfant décédé dans les bras d'un pompier qui vient de le repêcher dans une rivière. Et ce sont des photos qui nous ont beaucoup interpellés, qui nous ont beaucoup marqués, choqués. Et même si elles étaient soutenables, hein, parce qu'il n'y avait pas de sang, l'enfant avait l'air de dormir, mais peut-être justement c'était d'autant plus saisissant. Très vite, il y a eu une sorte de fascination pour cette histoire, pour ce malheur. Pour ma part, j'avais une enfance et une jeunesse très protégées. J'avais jamais été confrontée à des sentiments violents, d'aucune sorte. Et j'ai découvert ce que c'était que la haine, ce que c'était que la violence, ce que c'était que la méchanceté, la cruauté. Et plutôt que d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, évidemment, avec le recul, une certaine résistance, eh bien non, je me suis laissée fasciner, comme tout le monde, par cet amalgame de sentiments extrêmes qui nous ont emmenés très loin.
Et le samedi, quand il y a l'enterrement de Grégory, toute la presse est là, évidemment.
Oui, toute la presse est là parce qu'elle est accourue, rameutée par l'idée qu'on entre là dans un roman déjà en cours d'écriture. Par exemple, Libération a publié, pour illustrer les premiers articles, non pas des photos, enfin ils en ont publié, mais en plus des photos des lieux ou de certains personnages, des extraits du film Le Corbeau de Clouzot. Ça nous a beaucoup marqué. On avait beaucoup l'image de ce film à l'esprit. Mais voilà, il y a tout un imaginaire qui s'est enclenché autour de cette histoire de corbeau. Il n'y aurait pas eu le corbeau, je pense que l'attraction n'aurait pas été la même. Et puis, une certitude très vite affichée par les enquêteurs et qu'on a aussi cernée, c'est qu'il était là. Ce n'est pas quelqu'un qui est passé, qui a commis un crime et qui est parti dans un autre département.
Tout le monde était persuadé qu'en fait, il était là.
Tout le monde était persuadé. Et alors là, on est plus dans le Simenon que dans autre chose. Tout le monde était persuadé que l'auteur du crime était là, qu'il côtoyait la famille, les parents de l'enfant, et qu'il narguait, même si on ne l'identifiait pas, qu'il narguait tout le monde. Ça avait quelque chose d'assez abyssal aussi comme représentation, ça.
Et du coup, c'est assez terrible. Ça veut dire que lors de cet enterrement, où j'imagine il y avait la douleur des parents, il y avait aussi l'excitation de se dire que peut-être le corbeau était là et peut-être qu'on arriverait à trouver le corbeau pendant l'enterrement.
Oui, l'idée c'était que quelqu'un allait craquer et s'effondrer, ou que ce serait dénoncé pendant l'enterrement, ce qui était évidemment totalement illusoire. Mais il y avait cette idée, les gendarmes étaient là, nous étions là, les familles étaient là, les villageois étaient là, il y avait énormément de monde. Et malheureusement, ça a dégénéré parce que des caméramans ont voulu s'approcher très près de la tombe, de la fosse du moins, puisque la tombe n'était pas encore constituée. Et ça a provoqué un mouvement de foule totalement déplorable. La maman de Grégory s'est évanouie, elle a dû être évacuée, et finalement son enfant a été mis en terre sans qu'elle puisse assister à ce moment crucial, ce qui est quand même terrible avec le recul. Voilà, et puis il y avait des journalistes qui commençaient déjà à délirer un peu, justement, à propos d'elle, en disant « Oui, on en a vu d'autres faire du cinéma dans un cimetière. » C'était très, très délétère comme ambiance, très délétère.
Ils disaient ça le jour de la cérémonie, en fait. Est-ce que vous avez des choses que vous avez pu entendre le jour de l'enterrement dans ce cimetière,
oui. Il y a notamment un journaliste qui s'est distingué après par sa hargne et sa cruauté à l'égard de Christine Villemain, qui effectivement, ce jour-là, à quelques mètres de la tombe, disait ça, ouais, la soupçonnait. Bon, sur quelle base, on ne sait pas trop, évidemment.
Et vous sentiez comment par rapport à ça, justement ?
Très mal à l'aise. J'avais jamais été dans un cimetière où les choses étaient aussi, dans une ambiance aussi tendue, aussi perturbée. C'était très, très déplorable. À la fois d'y assister et puis d'en être aussi, même si c'était le tout début de ma prise de conscience. Mais c'est vrai que ça fait partie des scènes dans lesquelles j'aurais préféré ne pas me trouver.
Ce qui est frappant après, c'est qu'il y a eu très vite d'autres noms jetés en pâture, puisque effectivement l'enquête, elle se faisait comme ça, à ciel ouvert. Je pense aux Hollard qui très, très vite ont été désignés à la vindicte populaire. Quels sont vos souvenirs, justement, de ces noms et un peu de ce côté lynchage?
Alors, ces gens dont vous parlez sont des cousins éloignés qui ont été dénoncés auprès des gendarmes, qui sont allés les chercher, qui les ont interrogés pendant plusieurs heures, et puis c'était une piste vaine. Et du coup, ils les ont relâchés dans la nuit à 1h du matin de la gendarmerie. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, évidemment, à chaque fois que quelqu'un était soupçonné ou interpellé, on était convaincu toujours que voilà, ça y est, c'est bon, on a trouvé l'assassin. Donc entre-temps, la tension avait monté devant la gendarmerie, à la fois dans le public qui était là, les gens du cru, et puis nous-mêmes. Et ces pauvres gens ont été jetés dehors comme ça, sous les flashs et sous les projecteurs, en pleine nuit. Ils n'arrivaient pas à retrouver leur voiture, ils trébuchaient, ils se tordaient les chevilles dans un fossé. Enfin, c'était une espèce début de chasse à l'homme qu'on a connu malheureusement fréquemment dans cette histoire, et un exercice d'humiliation dont les gendarmes auraient vraiment pu faire l'économie, quoi. Ils auraient pu essayer de les faire sortir discrètement et de les raccompagner chez eux discrètement plutôt que de les jeter comme ça en pâture dans la nuit. Et c'était aussi un des épisodes assez choquants de cette histoire.
Quelles étaient les relations entre les journalistes et les habitants de la vallée? Puisque finalement, il y a tout d'un coup beaucoup de journalistes qui sont arrivés dans ce petit triangle finalement qui n'est pas si grand. Vous viviez toujours là, vous parliez, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, avec tous les protagonistes du drame. Donc, quelles sont les relations que vous avez tissées avec...
Alors, on a envahi les lieux, littéralement, physiquement, et on s'est signalé assez vite par une certaine... on était bruyants, on était nombreux, on roulait vite, on faisait des demi-tours intempestifs lorsqu'on croyait avoir repéré la voiture de quelqu'un qu'on voulait interviewer. On débarquait un peu à l'improviste dans toutes les maisons parce qu'il n'y avait pas à l'époque de téléphone portable. Il y avait juste une cabine à pièces qui se trouvait dans le village et donc elle n'était pas suffisante pour tout le monde. Donc on allait toujours chez les gens pour téléphoner. Assez vite, les gens se sont lassés de notre présence. Ils ont été assez outrés, surtout par le portrait assez caricatural qui a été fait de la région. C'est vrai qu'on la découvrait, cette région. On en a vu, évidemment, dans un premier temps, que les aspects les plus délabrés, parce que c'est ceux qui correspondaient au crime. Bien évidemment, il y avait une volonté de faire une peinture à la fois sociale, géographique, qui correspondait à l'ambiance morbide de ce crime. L'inverse aurait été inimaginable. Je pense même que si cette affaire était survenue en été, elle n'aurait pas du tout connu la même ampleur. Je pense que l'aspect automnal, les brumes, toute cette atmosphère
enflammer
à la Simion a beaucoup, beaucoup contribué à enflammer les esprits. Et donc la population a vite été ulcérée, notamment il y a TF1 qui est venu comme ça d'un éclair, une équipe qui est venue un jour, qui a fait un sujet qui ramassait à peu près tous les clichés négatifs sur la région, qui effectivement était aux prises déjà avec les problèmes de fermeture d'usines, mais il n'y avait pas de lien direct évidemment, mais c'était la toile de fond qu'on a cherché à mettre en valeur. Et au bout de 3 semaines, les portes se sont toutes fermées, les gens nous ont repoussés et ils en ont gardé un traumatisme, je crois, encore très très vivace aujourd'hui. Même les autorités locales avaient protesté auprès de la haute autorité de l'audiovisuel ou contre je ne sais plus quelle autre instance pour dire ça suffit, quoi, arrêter de caricaturer et de chercher à établir un lien entre le crime et son environnement.
Ce Denis Robert, avec qui vous avez travaillé, enfin en tout cas qui était sur les lieux en même temps que vous, lui, il a cette expression, il dit que les journalistes étaient des rats à l'époque. C'est une expression assez, assez dure, mais est-ce que justement, dans cette chasse aux scoops, hein, vous avez eu l'impression que les journalistes, et d'ailleurs je m'inclus dans cette définition, en fait, est-ce que dans un fait divers, les journalistes sont forcément des rats?
Alors, Denis a employé cette expression bien plus tard, en 88, quand il a fait un article dans Rolling Stone, justement pour raconter un petit peu cette atmosphère de folie que nous avons connue pendant plusieurs mois. Nous avons été des rats dans ce sens où nous nous sommes répandus en grouillant un peu, ça c'est certain, et dans ce sens où effectivement, même si j'ai un peu de mal à m'y associer, mais je l'ai fait quand même, on est allé toujours vers le plus... Non, pas le plus sale, parce que c'était pas en ces termes-là, mais voilà, on allait vers le plus négatif, le plus noir, ce qui était un peu de l'ordre du déchet de la nature humaine. Donc en ce sens, oui, nous avons été des rats, mais je pense qu'on peut couvrir des faits divers de manière tout à fait digne, et notamment en ne s'y installant pas comme nous on l'a fait, puisque progressivement on est devenu des acteurs et non pas des observateurs. Je pense qu'on peut couvrir des faits divers de manière tout à fait digne, oui.
Alors dans cette histoire, il y avait un personnage clé, qui l'est toujours d'ailleurs, Muriel Boll. Lors d'une déposition très importante, elle va accuser Bernard Laroche, il va être inculpé. Et donc la foule va se tourner aussi contre lui, puisqu'il va être inculpé. Et qu'on a l'impression qu'on a découvert.
Ah, il est certain que le jour où les gendarmes à qui on a reproché des choses de fond qui n'étaient pas justifiées, mais on peut leur reprocher effectivement de n'avoir pas su gérer cette foule de journalistes qui était à leur basque. C'est vrai qu'ils n'étaient pas formés pour ça, c'est vrai que ce n'était pas facile parce qu'on les suivait partout et qu'on n'avait aucun mal à savoir ce qu'ils faisaient et à interpréter leurs gestes. Mais le jour où ils sont allés interpeller Bernard Laroche, ils l'ont fait de manière... ils l'ont exhibé. Parce que ça faisait 3 semaines qu'ils étaient sous pression, qu'on attendait d'eux qu'ils trouvent enfin le coupable. Et donc, ils ne l'ont pas arrêté, mais ils l'ont exhibé. Ils ne l'ont pas laissé se changer. Il était dans son usine, il portait une cotte qui était maculée de cambouis. Ils auraient pu au moins le laisser se changer, ils auraient pu le laisser se laver les mains. Ils ne l'ont pas fait, ils l'ont arraché de son usine en le tirant par ses poignets menottés. Et alors... évidemment, nous, on était tendus comme des arcs depuis 3 semaines autour de cette histoire et on a tout de suite mordu, si je puis dire, à cet hameçon. Il y avait, je ne sais plus combien, 25 kilomètres qui les séparaient du palais de justice où il allait être présenté au juge. Et on a fait ces 25 kilomètres à toute vitesse. C'était une ambiance western quasiment. Il y avait des caméramans qui étaient assis... dans la voiture, mais avec le corps à l'extérieur, assis sur le rebord de la fenêtre qui avait été ouverte, pour filmer le tout. Ça n'a aucun intérêt de filmer une voiture de flic qui va très vite, hein. Aucun intérêt. Mais voilà, ça faisait partie du western local. Malheureusement, je crois que cet homme-là a été condamné ce jour-là. Il a été condamné par cette exhibition, il a été condamné par l'interprétation que nous avons faite de cette interpellation western, et ça lui laissait peu de chances de s'en sortir pour la suite.
Et le public aussi ?
Alors bien sûr que le public s'est surtout manifesté 3 jours après, lorsqu'il y a eu une confrontation entre Muriel Boll, justement ce fameux personnage clé qui a traversé le temps, et cette personne qui venait d'être mise en examen, Bernard Laroche. Et là, il y a une foule qui s'est rassemblée sur la place près du palais de justice et qui aurait pu lyncher cet homme si on lui avait livré, qui était extrêmement violente, dans les mots, dans les cris. On a vu des gens prendre des enfants et les porter au-dessus de leur tête pour bien signifier l'enjeu de tout cela. Et avec des slogans réclamant le rétablissement de la peine de mort. Alors là, je dois dire que pour ma part, ça a été mon premier grand coup de frein quand j'ai vu ça. Parce que là, j'ai compris que c'est nous qui les avions fait venir, ces gens-là, et que c'est nous qui avions alimenté ces sentiments. Et c'était à l'opposé, évidemment, de l'image que je me faisais de ce métier. Je n'imaginais pas, c'est la première fois que j'avais une concrétisation de l'impact que le métier de journaliste peut avoir sur les esprits et sur les foules. Et c'était extrêmement choquant.
Muriel Boll va se rétracter. Et 4 mois plus tard, Bernard Laroche sera libéré. Et puis, le coup de tonnerre, la tragédie, le 29 mars 1985, Jean-Marie Villemain tue Bernard Laroche. Donc c'est le choc. Et là, vous vous rappelez, j'imagine, très bien de ce moment.
De ce que enfin, je faisais à ce moment-là, oui, absolument. J'étais chez moi. C'était paradoxalement une période relativement calme dans cette affaire. On avait connu des semaines précédentes très, très brûlantes. Parce qu'entre-temps, il y avait une guerre des polices très forte dans cette histoire. Et donc... avant que le juge ne libère Bernard Laroche, les policiers avaient fait beaucoup de manœuvres, il faut bien le dire, pour que les gendarmes soient dessaisis et pour qu'eux-mêmes soient saisis à leur place. Avec, évidemment, les rodomontades. Eux, ils allaient trouver ce que ces connards de gendarmes n'avaient pas pu trouver. Donc, on avait eu des semaines très, très, très brûlantes avec ça, qui n'avaient abouti à rien. Chaque jour, il nous promettait la vérité. Chaque jour, il nous promettait la solution de l'énigme. Et puis finalement, il ne se passait rien. Du coup, à un moment donné, tout le monde est rentré chez soi. Parce qu'il y avait quand même des périodes d'accalmie, heureusement. Et donc, j'étais chez moi. J'étais en train de boire un thé. Et il était 14h. Et j'écoutais les infos. Et j'écoutais France Inter. Et j'entends les premières phrases du flash qui disent... la première phrase qui dit « Dans les Vosges, un homme armé est là ». Et là, je comprends. J'ai pas besoin d'une troisième phrase, je comprends. Je dis, ça y est. C'était tellement prévisible. Mais tellement prévisible. On l'a vu, mais de jour en jour, on l'a vu tomber. On a vu comment il perdait pied. On a vu qui lui a fait perdre pied, qui l'a poussé dans le gouffre. C'était l'événement le plus prévisible de cette histoire, c'était la mort de Bernard Laroche.
C'est la mort de Bernard Laroche.
Ouais. Parce que ça a été l'objet d'une décomposition méthodique dans laquelle sont responsables les avocats, Les journalistes, le juge, le parquet, enfin tout le monde.
Tout le monde était responsable.
Tout le monde était responsable. Il y avait un magistrat à l'époque qui était très connu, qui est décédé depuis, qui s'appelait Casamayor. Enfin, c'était son nom de plume, son vrai nom c'était Serge Fuster, qui était très estimé et qui avait dit le lendemain ou le jour même, je ne sais plus, dans cette histoire, tout le monde doit avoir la tête basse, car tout le monde a fait le contraire de ce qu'il devait faire, ou autre chose que ce qu'il devait faire. Et c'était exactement ça. Donc quand même, moi j'étais jeune, mais j'étais quand même pas totalement idiote, et je voyais bien ce qui se passait sous nos yeux. Et je voyais bien aussi comment nous, on jouait avec la douleur des gens. Parce que d'une certaine manière, on jouait avec la douleur des gens, c'est-à-dire on allait les interroger, par exemple les parents de Grégory... Pour être sûr d'avoir une interview, bah, on chargeait un peu la barque en face, quoi. Oui, bah oui, la roche, bah, c'est pas clair. Oui, bah, on a vu le PV machin. Ah bah oui, puis Muriel, il paraît qu'elle a pas dit tout à fait la vérité. On en savait strictement rien, pour être franc. On avait vu des bouts de PV, on avait eu quelques échos, des bribes de choses dites par des avocats ou par d'autres, ou par le juge Lambert lui-même, qui était très bavard. Mais au fond, on n'en savait strictement rien. Et ça nous a pas empêché de manipuler ça comme des allumettes devant une bouche de gaz, quoi. Très clairement. Alors... Pour ma part, je ne me mets pas dans ceux qui ont le plus de responsabilités. Il y en a qui ont eu des actes beaucoup plus violents et beaucoup plus directs et beaucoup plus forts que ça. Mais clairement, voilà, moi, en une phrase, j'avais compris. J'ai bondi sur mes pieds, j'ai hurlé, et puis j'ai pris ma voiture, j'ai roulé comme une folle jusque là-bas. Et puis, à part constater, il n'y avait plus grand-chose à faire, quoi. Et cette affaire s'est arrêtée ce jour-là. Vous pouvez considérer que le 29 mars 1985, l'affaire Grégory était terminée. Ça a été l'effondrement total. Tout le reste, ensuite, n'a été, en tout cas pour ce qui est de la partie d'Épinal, qu'une espèce de, comment dire, de sauve-qui-peut général où chacun a essayé d'oublier la part de responsabilité qu'il avait dans ce crime.
Qu'il a eu par rapport à la mort de Bernard
Absolument.
Laroche. Et ça s'est passé comment, l'enterrement de Bernard Laroche? Parce que c'était à nouveau le cirque médiatique, à nouveau... La presse dans le cimetière.
Encore plus de presse, évidemment, parce que là, ça a été, c'était le crime dans le crime. Et je ne connais pas d'autres événements qui en aient généré un autre de cette nature dans l'histoire du XXe siècle du fait divers. Donc, c'était le crime dans le crime. Oui, là, il y a une espèce d'explosion de fascination à nouveau. Alors... Ça s'est passé dans un petit cimetière qui se trouve au-dessus de d'Aumonzay, la ville où habitaient Bernard Laroche et sa famille. Et il y avait un service d'ordre organisé par le syndicat auquel il appartenait, qui était la CGT, qui avait pour charge d'interdire les journalistes d'entrer, en tout cas les photographes et les caméramens, d'interdire d'entrer dans le cimetière. Donc ils se sont tous postés sur le muret qui encadrait. Alors c'est une photo assez saisissante qu'on a déjà vue plein de fois, où ce muret de cimetière est entièrement occupé, il n'y a pas un espace de libre par caméra, photo, journaliste. Alors des gens comme moi qui pouvaient se permettre de s'introduire parce qu'il n'y a pas d'appareil visible, on l'a fait avec respect dans la mesure du possible. Et puis à un moment donné, il y a un photographe qui a rompu le pacte, parce que le pacte c'était pas de photographe dans le jeu. Il y en a un qui a rompu le pacte, qui a sauté du muret, qui a couru vers la tombe, en tout cas la fosse. Il a été repoussé violemment par un coup de boule donné par un directeur de l'usine de Bernard Laroche. Mmh. Il est tombé, il s'est fait mal sur une croix. Vous imaginez un peu l'ambiance. Et la maman de Marie-Ange et Muriel Boll s'est évanouie. Et là, il y a vraiment eu quelques minutes, quelques secondes où on pouvait s'imaginer que tout allait dégénérer. Que tous les autres photographes allaient sauter ou les caméramens. Bon, heureusement, il y a quand même eu in extremis, un mouvement de retenue qui fait que ça a pu se terminer sereinement.
Quand vous dites tout le monde a joué avec la douleur des parents, à des degrés différents. C'est vrai que vous racontez dans votre livre, par exemple, que autour de la tombe de Grégory, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu des photos avec des jouets.
Ah oui, j'ai oublié ça. Ben oui. Et oui, parce que dès lors que l'affaire était enclenchée, chacun voulait sa part. Alors il y avait ceux qui avaient. Enfin voilà, il y avait certains qui arrivaient très bien, qui arrivaient à avoir des photos, d'autres qui arrivaient à avoir des interviews, puis d'autres qui arrivaient plus tard ou qui étaient moins doués, qui s'en sortaient moins bien. Et parmi ceux-là, il y avait deux reporters du Parisien Libéré, comme on l'appelait à l'époque, qui avaient eu la riche idée de, comme on arrivait près de Noël, donc ça faisait 2 mois après la mort de Grégory, qui s'était dit comment est-ce qu'on pourrait illustrer Grégory et Noël, parce qu'il fallait illustrer le feuilleton, qui se vendait très bien. Et donc, ils ont eu cette bonne idée de fabriquer 3 faux colis paquets cadeaux et d'acheter quand même un petit tracteur coloré. Et ils ont posé ces jouets sur la tombe. Et comme ils savaient que tous les jours, les parents de Grégory venaient à 16 heures pour se recueillir, le jour J, lorsque les parents se sont présentés, ils ont vu ça, ils se sont demandé ce que c'était, mais évidemment, ils n'avaient pas la réponse. Et le photographe les a pris d'un peu loin. Et le lendemain, la photo disait... que les parents, fous de douleur, avaient déposé sur la tombe les jouets qu'ils avaient déjà achetés pour leurs enfants, pour leur enfant. Bon, il y a eu ça. Il y a eu un autre journaliste qui, en panne de photos, a tout simplement dévissé la plaque de résine qui comportait la photo de l'enfant sur la tombe. Hein. Vous n'êtes jamais si bien servi que par soi-même et qu'à demeure. Donc imaginez ce que ça fait dans la tête des parents, tout ça. Parce que ce sont 2 exemples, mais il y en a bien d'autres. Alors cette photo de la tombe leur a été rendue en échange d'une interview.
Ah oui, donc tout était, tout se monnayait.
Tout se monnayait. Il y a eu énormément de scènes comme ça qui ont conduit, notamment Jean-Marie Villemain, à perdre la tête. Et il a dit plus tard au procès, j'avais du chagrin dans le sang comme d'autres ont de l'alcool. Mais ce chagrin, il a tellement été alimenté. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que je dois dire que n'importe lequel d'entre nous aurait vécu ce que ces gens ont vécu, aurait sans doute fait la même chose. Ça, c'est clair. Mais... pour ma part, j'aimerais que si un jour je devais être dans ces situations, la société me pose des garde-fous qui m'empêchent d'aller jusqu'au bout de mon désir de vengeance ou de l'explosion de ma douleur. Et ces gens-là n'ont pas trouvé sur leur chemin aucun garde-fou, aucun. La justice n'a pas su tenir sa place, la société n'a pas su être digne, l'opinion publique s'est retournée contre eux. Pourquoi ? Parce qu'on les considérait un peu comme les complices de ces journalistes qui avaient tant sali la région. L'Église n'a pas su se manifester, elle aurait pu aussi se manifester. Il y a eu un vague communiqué du diocèse, je ne sais pas quand, à un moment donné où c'était trop tard. Voilà, donc pas de garde-fou. Alors n'importe quel être humain va au bout de sa douleur dans ces cas-là.
Et finalement, comment on en arrive à fabriquer une autre coupable idéale avec donc Christine Villemain ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la mécanique folle qui s'embraye et qui fait qu'on va fabriquer cette...
Alors cette mécanique, elle s'est enclenchée avant. Bien sûr, elle s'est enclenchée avant. Alors évidemment, il y a beaucoup de paramètres, hein, de fond et de forme. Ce serait difficile de tous les lister. Globalement, l'idée de départ, sûrement exacte, c'est qu'une femme était aussi impliquée dans le crime. Et donc, effectivement, les gendarmes, dans les 3 semaines où ils ont travaillé, parce qu'ils n'ont pas enquêté, ils ont enquêté 1 mois à peu près, mais pas plus. Après, le juge Lambert les a freinés, leur a demandé de ne plus rien faire. Chercher une femme. Ça, c'était un premier axe. Un second axe est que, dans ce dossier, il y avait des témoignages de 3 jeunes femmes qui étaient des ouvrières de l'usine de Christine Villemain, qui disaient l'avoir vu poster une lettre le soir du crime. Là où, effectivement, la lettre a été postée de revendication du crime. Donc, elle avait été amenée à s'expliquer. Elle avait expliqué qu'elle avait posté une lettre la veille. Et de fait, les jeunes filles la décrivaient comme elle était habillée la veille, non pas comme elle était habillée le jour même. Mais ça avait suffi à mettre... et d'ailleurs, on avait retrouvé la lettre qui avait été postée la veille. C'était un chèque de commande de vêtements pour Grégory. Et donc, la conjonction de cette recherche d'une femme et la possibilité que ça puisse être elle, a déjà donné prise à des gens qui faisaient en sorte que on s'éloigne du premier suspect. Donc ça a commencé comme ça, il y a eu cette rumeur. Après, les avocats de Bernard Laroche ont joué un jeu très délétère, dans ce sens où ils ont eux-mêmes alimenté la rumeur sur le thème « c'est sûrement un accident camouflé en crime ». Donc l'accident était imputable à la mère. Bon. Il y a eu des vérifications, elles sont toutes allées dans le sens de Christine Villemain, à tel point que le juge lui a dit, écoutez, voilà madame, c'est bon, il n'y a plus rien autour de vous, tout est clair. Il lui a dit exactement le 24 décembre 1984. Mais ensuite, il y a eu une expertise en écriture, voilà. La première d'une longue liste. Enfin, la seconde d'ailleurs, mais bon, la première désignait quelqu'un d'autre. Et à partir de ces quelques éléments qui auraient dû faire l'objet de vérifications beaucoup plus précoces et beaucoup plus solides, l'image, l'idée que la mère puisse être impliquée d'une manière ou d'une autre, comme complice ou comme auteur, a commencé à émerger.
Vous parliez des avocats d'ailleurs. C'était quoi le jeu entre les différents avocats? Parce que certes, il y avait l'affaire, mais j'ai l'impression qu'il y avait aussi d'autres enjeux qui venaient se surajouter à l'affaire et qui compliquaient en fait la lecture de la partition des uns et des autres.
Alors, ce qui est venu se surajouter, mais qui était plutôt préexistant, c'est le contexte politique et social. Il faut bien se souvenir qu'on est en 84, on est quand même dans une période où droite-gauche, ça veut dire vraiment quelque chose, c'est quelque chose de très, ce sont des blocs hein, très bien déterminés, qui ne sont pas du tout aussi mouvants qu'ils ont pu l'être depuis 20 ans. Et le hasard, parce que c'est vraiment le hasard. Le hasard veut que les parents de Grégory, partie civile, se voient indiquer un avocat dont ils ne savaient rien, mais qu'ils ont accepté, parce que de toute façon, ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un avocat, qui était marqué à droite. Et Bernard Laroche, lorsqu'il a été interpellé, a lu, lui, deux avocats, l'un de la CGT et l'autre du Parti Socialiste. Et ça a fait un antagonisme extrêmement violent entre ces deux partis, qui n'avaient rien à voir, qui n'avaient pas lieu d'être, mais qui, pour nous journalistes, a beaucoup compté. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup déterminé au départ en fonction de la qualité politique des uns et des autres. Ce qui, vous l'avouerez, est quand même un peu ridicule. Mais ça a pris une ampleur qui a tout cristallisé. Les Laroche et les Villemain auraient eu deux avocats d'Épinal, des copains d'enfance ou des copains de barreaux, il n'y aurait pas eu d'affaire.
Ah oui?
Ah ouais. Ah non, c'est certain.
Carrément, vous pensez?
Ah oui, non, alors là, 100%. À 100%. Les avocats des deux parties n'ont eu de cesse, et je dois dire plus ceux de gauche que celui de droite, je dois le reconnaître, même si au départ j'étais loin de suivre cette ligne-là. Mais oui, on fait de cette histoire un enjeu politique énorme. Énorme. Et franchement, oui, il y aurait eu deux copains de banc, de fac, qui auraient pris le dossier. L'affaire n'aurait jamais pris cette ampleur.
Jamais. Plus le fait que, chez les journalistes aussi, il y avait des camps qui suivaient plus ou moins...
Alors, les journalistes, dans un premier temps, effectivement, ont été... Il y a eu une manœuvre très habile, d'ailleurs, des avocats, divisés pour mieux régner. C'est-à-dire qu'ils savaient distiller les confidences... voilà, on vous donne l'interview, mais pas à vous. Et pourquoi pas à moi? Bah parce que voilà, vous êtes pas dans le bon camp politique, ou parce que vous êtes en concurrence avec machin et que machin veut l'exclusivité. Donc déjà pas très sain comme façon de voir. Et les camps dont on a souvent parlé et que j'ai moi-même décrit dans mon livre sont surtout postérieurs à l'assassinat de Bernard Laroche et tiennent surtout à la responsabilité que nous avions les uns les autres dans ce crime. Il faut vraiment comprendre que ça, c'est un événement fondateur et fondamental dans cette histoire.
Tout le monde traîne, en fait, cette culpabilité.
Voilà. Et plus la culpabilité est grande, plus on va tenter de la reporter sur Christine Villemain, qui est donc, à un moment donné, Laroche est mort, son mari, à elle, est en prison, donc il ne reste plus qu'elle, en quelque sorte, sur l'échiquier. Donc c'est elle qui va servir de bouc émissaire, c'est-à-dire que c'est elle qui va servir de paratonnerre, à la fois la responsabilité collective, parce qu'il faut bien dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'aucun des garde-fous normaux n'a fonctionné. Donc il y a une responsabilité collective, et il y a une responsabilité individuelle de chacun qui, en sa conscience, sait très bien ce qu'il a fait ou pas fait. Et plus les gens se sont impliqués de manière délétère dans ce qui a conduit à l'assassinat de Bernard Laroche, plus ensuite ils vont tenter de reporter cette culpabilité sur la mère de Grégory. Mmh. Et c'est ce qui va permettre de fabriquer son personnage de coupable, parce que ceux-là sont plus nombreux que les autres, ils sont plus forts, et ils font plus de bruit.
Ils font plus de bruit parce qu'ils sont mieux organisés, parce qu'ils ont...
Alors, ils font plus de bruit parce qu'il y a, au sein de ce camp-là, il y a un couple qui s'est singularisé par une position très particulière, qui était un couple de journalistes, qui, à eux deux, cumulaient les correspondances de 8 médias nationaux, ce qui est énorme, sous des noms différents. Vous lisiez Le Matin, vous lisiez Le Figaro, vous lisiez François, vous lisiez Le Quotidien de Paris, vous lisiez Le Journal du Dimanche, si on était un dimanche, vous lisiez quelques dépêches de leurs deux agences de presse, et puis un autre que j'ai encore oublié. Vous aviez 8 noms différents, vous ne pouviez pas imaginer, nous on le savait, mais en tout cas le public ne pouvait pas imaginer que c'était les mêmes personnes qui à chaque fois écrivaient. Donc ça, c'était un système pyramidal qui a beaucoup, beaucoup alimenté les autres et qui a dominé les autres et qui a donné cela tragique à cette histoire.
Et la France entière, de toute façon, s'interroge sur... Sur la mer, elle devient un personnage.
Oui, elle devient un personnage de fantasme. C'est sûr qu'elle cristallise. On lui reproche surtout, évidemment, personne ne peut lui reprocher d'avoir tué son enfant, parce que personne ne sait évidemment si elle a tué son enfant. Mais on lui reproche surtout une chose, on lui reproche d'avoir été enceinte 6 mois après le décès de son fils. Ça, c'est quelque chose. Alors ça, c'est pas passé du tout, du tout, du tout. C'est vraiment ce que les gens lui reprochaient. Même moi. Dans une interview dont j'ai absolument honte aujourd'hui, mais bon, il faut bien que je l'assume, j'ai eu une phrase en lui disant « Est-ce qu'il n'est pas un peu tôt pour se réjouir ?» Franchement.
Donc en fait, on lui reprochait de continuer à vivre.
Voilà. On lui reprochait de continuer à vivre et d'avoir la tête haute. Là où on aurait voulu qu'elle ait la tête basse. On lui reprochait aussi une autre chose qui fait partie des charges qui ont pesé contre elle. Elle a voulu défendre son mari, bien sûr, dès que celui-ci, malheureusement, a tué son cousin. Et donc, elle a pu donner au début quelques interviews où elle se battait avec une espèce de rage, évidemment, mal contenue. Et elle disait, de toute façon, c'est la roche. Voilà. Et elle accusait un mort. Et alors ça, la paix des morts, c'est inviolable. Et le fait qu'elle ait osé dénoncer dès le lendemain du décès de cet individu, de ce personnage, le présenter comme un assassin, elle avait outrepassé pour la deuxième fois, en l'espace de quelques semaines, la décence acceptable.
Il y a aussi une guerre des images, parce que donc il y a des articles, beaucoup de mots, mais il y a aussi beaucoup de photos qui sont prises, parfois qui sont achetées, monnayées. Donc il y a l'argent aussi qui rentre en scène dans toute cette histoire.
Alors l'argent va rentrer en scène un an après le crime, même s'il y a déjà eu auparavant diverses choses qui ont été monnayées, mais de manière systématique, c'est Paris Match qui va emmener la danse, dans ce sens où Paris Match a trouvé dans cette histoire un feuilleton intarissable, avait d'ailleurs délégué 2 reporters qui alternaient une semaine sur l'autre la piste de l'un, la piste de l'autre, qui ramassaient beaucoup de photos et parfois beaucoup d'infos aussi, et donc qui avait vendu à plus d'un million d'exemplaires le numéro qui présentait Bernard Laroche sur son lit de mort. Donc voilà, Paris Match a alimenté le feuilleton. Et donc pour alimenter un feuilleton, il faut de la matière. Et il ne suffit pas d'avoir accès aux procès-verbaux par les avocats, il faut aussi des photos.
Des photos, des images, d'où cette guerre des images.
Et comme il y avait eu en juin 85 un papier extrêmement violent dans Paris Match contre Christine Villemain, qui était un papier totalement romancé, assez surprenant quand même sous la plume de quelqu'un qui était pris Albert Londres. Voilà, l'avocat a dit, cette fois ça suffit, je fais un procès. Et le journal a dit, vous ne faites pas un procès, mais on vous donne de l'argent, vous nous donnez des photos, on fait ce qu'on appelle une transaction, ce qui est tout à fait légal, ça n'a rien d'illégal. Et voilà, et comme les avocats des deux parties travaillaient gratuitement depuis des mois, évidemment ça a été pour eux une source de revenus qu'ils n'ont pas négligée. Qu'ils ont même beaucoup apprécié à un moment donné. Sauf que pour l'opinion publique, c'était les principaux intéressés qui touchaient cet argent.
Ouais, ouais. Et du coup, pour son image, ça a dû être terrible, cette idée qu'elle monnayait sa souffrance, parce qu'il y avait cet argent.
Alors, non seulement elle monnayait sa souffrance, mais elle avait vendu aussi les photos de la naissance de son deuxième enfant. Donc, le raisonnement était simple. Elle vend le second. C'est une salope, donc elle a tué le premier. C'était quand même très primaire à l'époque. Je ne sais pas si ce serait beaucoup plus fin aujourd'hui, mais en tout cas, c'était comme ça à l'époque.
En tout cas, l'opinion publique avait envie de la détester.
Il y a un journal un journal anglais qui a écrit en 86, après des mois et des mois de harcèlement et de bras de fer entre elle et la presse et la justice, qu'elle était la femme la plus haïe de France. C'est quand même le genre de Légion d'honneur dont on se passerait bien. Mais je pense que ce qui m'a frappé quand j'ai étudié tout ça avec des années de recul, ce couple, parce qu'ils sont indissociables tous les deux, ils n'ont jamais été, même s'ils ont été séparés physiquement, ils n'ont jamais été séparés d'aucune manière. Je pense que ce couple.
C'est très très soudé, malgré.
Très très soudé, oui, ils n'ont jamais flanché. Je pense que ce couple a suscité dans l'opinion publique la même jalousie que celle qu'il suscitait à l'intérieur du cocon familial. Parce que j'ai retrouvé dans les articles, souvent fielleux ou très, très vulgaires même parfois, exactement les mêmes mots ou la même haine, arne, jalouse, ouais, hargne, qui suintait des lettres anonymes du corbeau. Ils surnageaient, mais, et dans leurs efforts désespérés pour surnager, on voyait, ça crevait les yeux et on le savait de tous côtés, que l'amour, il n'y avait plus que l'amour qui leur restait. Et je pense sincèrement que la société a nourri, au travers de ce qu'on lui a donné à dévorer, ça c'est clair, mais une espèce de désir mimétique comme ça, comme le décrit très bien René Girard dans le bouc émissaire, dans sa théorie du bouc émissaire, une espèce de jalousie collective à l'égard de ce que dégageait ce couple, qui avait quelque chose de lumineux, y compris dans le plus noir.
Et par rapport à cette figure de la mère qui fait quand même tellement fantasmer, Marguerite Duras va venir dans la région avec Denis Robert de Libération. Elle se passionne pour ce fait divers. Qu'est-ce qui s'est passé autour de la cristallisation de cette figure-là ?
La figure de la mère ?
La figure de la mère, oui. Et d'ailleurs, est-ce que le texte de Marguerite Duras a eu une influence sur la façon dont on percevait cette affaire et dont on a perçu...
Alors, le texte de Duras a eu beaucoup d'impact dans l'intelligentsia, c'est sûr. Il a déclenché d'ailleurs, très curieusement, beaucoup de réactions de femmes, philosophes, écrivains, cinéastes, acteurs, actrices. Et curieusement, tout le monde est tombé à roue sur Marguerite Duras... Mais personne n'a défendu la figure qui était quand même au centre de son papier, qui était celui de Christine Villemain, qui est donc celui de la mère. J'ai trouvé que les femmes dans cette histoire étaient les plus violentes. J'ai vu des hommes cracher leur haine à l'égard d'une femme qu'ils n'avaient évidemment jamais rencontrée, parce que très peu de gens la connaissent. Et j'ai trouvé que les femmes étaient extrêmement violentes et ça mériterait d'être approfondi comme analyse. Je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas l'objet de mon étude, mais j'ai été quand même assez frappée par... Je pense que c'est la jalousie. Vraiment, je vois pas d'autres mobiles et d'autres motifs que la jalousie. Bref, faut dire aussi qu'ils avaient un enfant magnifique. Et que cet enfant lui-même, je fais un aparté par rapport à Duras, mais je vais y revenir. Cet enfant lui-même avait tous les atours et tous les attraits de la beauté, de la santé, de l'avenir plein et radieux. Et il y avait une très belle photo qui avait été réalisée de lui par un photographe professionnel pour ses 4 ans, c'est-à-dire quelques mois avant son décès, qui servait de poster dans sa chambre, que Paris Match avait récupéré, qui s'en est beaucoup, beaucoup servi ensuite, et qui est devenu une espèce de logo de cette histoire que beaucoup de gens ont forcément en mémoire. Voilà. Je pense que la beauté de l'enfant y est pour beaucoup, et qu'il y a une jalousie, voilà. À l'époque, en tout cas, il y avait une jalousie très claire à l'égard de sa mère. Bref, et du couple qu'elle formait avec son mari. Duras, elle arrive, elle a lu toute la presse depuis des mois, et notamment la presse de faits divers qui est complètement emmenée par le duo dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui tape tous les jours, sans jamais l'avoir vue non plus. Et donc elle arrive avec cette conviction, mais elle vient, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, elle vient pour la défendre. Vous dites de quelqu'un qui est sublime, c'est que vous lui donnez quand même une valeur supérieure. Ce qui m'a le plus frappé dans ce papier, qui est assez abscon aussi, qui n'est pas toujours très compréhensible, c'est qu'en fait, elle la glorifie pourquoi ? Elle dit, ok, elle a tué son enfant, tout le monde sait qu'elle n'avait pas de raison de le faire, parce que bon, il n'y a absolument rien, évidemment, qui pouvait étayer le moindre début de commencement de mobile. Mais elle est formidable et elle est sublime parce que justement, elle l'a fait sans raison. C'est-à-dire qu'elle a coupé le lien naturel qui nous relie, nous, les femmes qui sont traitées comme des chiens, aux hommes qui nous traitent comme des chiens. Donc oui, moi, c'est une période où j'étais très, très mal à l'aise et j'aurais bien aimé partir. Mais j'étais trop jeune, j'avais pas encore assez mûri, j'avais pas encore de conscience et je l'ai pas fait. Et peut-être que c'est bien que je l'ai pas fait, parce que j'ai pu faire plus après. Mais nous étions quand même un petit groupe, j'étais pas la seule. Nous étions justement ce fameux petit camp. C'était pas une histoire de fond, pour, contre, coupable, pas coupable. Franchement, je dirais qu'on s'en foutait de ça. La question, c'était comment on traite les gens. C'est ça le plus grave. Pourquoi on s'autorise à traiter ces gens-là comme on les traite ?
Et quel a été le rôle du juge Lambert, en fait, dans toute cette période-là où... Il est soumis à une pression assez forte. En même temps, il est aussi, j'imagine, un peu fasciné par tout ça, ou alors embarqué.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe, en fait ?
Le juge Lambert est un jeune homme à l'époque, comme nous tous, sympathique, c'est pas la question, mais isolé. Il est très seul. Il est seul parce qu'il est seul en poste dans un tribunal, voilà. Donc c'est quand même pas évident. Parce que ça, s'il y a une leçon à retenir, c'est qu'il faut jamais instruire seul. faut toujours instruire en collégialité, j'espère que ça se fait de plus en plus. Il est seul et il est soumis à tout un groupe d'influences. Alors, il a les influences des avocats de Bernard Laroche, qui, d'une part, sont des copains à lui. Hein, la petite ville, tout le monde se connaît, donc c'est facile de traverser la rue et puis de venir tailler le poulet gras, évidemment, toujours dans le même sens. Il est sous l'influence aussi des journalistes, évidemment, qui, eux, le flattent beaucoup pour avoir des informations, dont j'étais. On l'avait invité à dîner un soir, il était absolument ravi. On n'avait pas réussi à lui soutirer une seule info. Mais enfin, bon, au moins comme ça, on avait pu faire connaissance un peu avec lui dans la perspective du futur. Donc, il était... honnêtement, il était pas, il avait une place vraiment pas enviable. Bon, tout ça, on peut le comprendre. Là où c'est pas pardonnable, c'est qu'il maîtrisait pas du tout la procédure. Pas du tout. Et si elle a dérivé comme elle a dérivé, c'est en grande partie de sa faute. Paix à son âme. Je suis bien d'accord que son suicide a été un drame, mais clairement, il n'a pas du tout tenu son dossier. Il a fait d'énormes erreurs de procédure. Énormes, inconcevables pour même un juge débutant. Et donc, il a pourri son propre dossier. Le jour où il a libéré Bernard Laroche, il n'avait même plus tellement choix, parce que de toute façon, il y avait des pièces de forme qui étaient viciées par ses propres erreurs. Ouais. Et surtout, il n'aurait pas dû conserver la maîtrise des dossiers après la mort de Bernard Laroche. Non seulement il s'est retrouvé à continuer dans le dossier Grégory, où il avait quand même failli de manière répétée, mais en plus il se retrouve avec l'instruction de Laroche. D'ailleurs, quand il a inculpé Jean-Marie Villemain, il lui a dit « c'est la première fois que j'inculpe quelqu'un avec autant de regrets ». Bah oui, tu parles. Il savait très bien quelle était sa part de responsabilité de l'autre côté de la table. Donc ça, c'était vraiment compliqué. Et de ce point de vue-là, sa hiérarchie, tant à Épinal qu'au niveau de la cour d'appel, la chambre de l'instruction qui est censée épauler les jeunes juges, elle n'a vraiment pas joué son rôle. Mais parce que tout le monde avait peur de la presse. Tout le monde avait peur de la presse à l'époque.
Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screen on sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com. Save big money.